Philippe Denis, Diego Arabal, fidèle au rendez-vous un jour, un livre, un auteur. Alors, vous avez fait simple cette semaine, Philippe Denis, puisque vous n'êtes pas trop embêté. Vous rappelez le candidat qui est revenu en deuxième semaine, votre invité. Bonjour d'abord à tous les deux.
Bonjour Philippe Subercas.
Bonjour Diego Arabal.
Bonjour Philippe. Et j'oublie pas moi, Diego Arabal aussi, tranquille, installé et qui écoute avec, avec beaucoup d'attention.
Et ben, il était intéressé, Diego, parce que Diego, eh ben, oui. Il travaille aussi sur une maison d'édition, hein, les éditions Arcane 17. Et comme la semaine dernière, avec notre invité, on parlait des éditions Carnet Livre, qui est une maison d'édition extrêmement originale, puisque ben, le créateur hein, de cette maison d'édition, hein, qui a 20 ans cette année, il a créé en 2005, fabrique, assemble ses propres livres. Oui. Donc c'est quand même original. On recommandait la semaine dernière, effectivement, d'aller sur Internet, donc voir les vidéos de Patrice Velu, VELUT, donc, qui présente, hein, qui a fait des vidéos extrêmement intéressantes sur les créations de Daniel Besançon. On le retrouve cette semaine, comme vous le précisiez, Philippe Subercas, parce que nous avions évoqué donc, sa maison d'édition, les éditions Carnet Livre, mais... c'est un homme proté, Daniel Beza, c'est un touche-à-tout. Il écrit, il publie, mais aussi il peint.
D'accord.
Et il fait des expositions, on en parlait semaine passée, donc il y a une exposition actuellement, on recommande aux auditrices et aux auditeurs qui restent sur Paris d'aller la voir à la Halle Saint-Pierre à Paris, au pied de la butte de Montmartre. Alors, la Halle Saint-Pierre, c'est un musée, hein, on va en discuter avec notre invité, c'est un musée consacré à l'art naïf, l'art brut, l'art singulier, l'art outsider. On va voir un peu ce que c'est que tout ça, parce qu'il est amené à y publier. On n'avait jamais fait d'émission là-dessus, donc on va se rattraper aujourd'hui.
Mais bien sûr, je vous fais confiance. Allez, je vous laisse à votre invité.
Bonjour Daniel Besas.
Bonjour.
Bonjour Daniel.
Merci Bonjour. D'être revenu parmi nous pour nous accompagner à nouveau, Daniel Besas. Donc suite à l'émission de la semaine passée sur, qu'on avait fait sur les éditions Carnet Livre, donc la maison d'édition que vous avez créée donc, il y a 20 ans, très exactement cette année.
Oui.
Pour parler de cette exposition que vous effectuez actuellement à la butte Montmartre, hein, donc je le précisais à la Halle Saint-Pierre, donc dans un musée consacré à l'art naïf, l'art brut, l'art singulier, l'art outsider, vous pouvez nous préciser et préciser un peu pour les auditrices et les auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'un musée qui est consacré à l'art naïf, l'art brut, l'art singulier, l'art outsider ? On vous écoute.
Alors... enfin, moi, j'ai découvert l'art brut par l'intermédiaire d'un autre musée qui s'appelle la Fabuloserie dans Lyon et qui est un musée qui rassemble les œuvres d'artistes qui ne se revendiquent pas vraiment artistes, en fait. Et ce sont des personnes comme vous et moi, du quotidien, souvent qui n'ont pas fait vraiment d'études au moins supérieures et qui pratiquent l'art au quotidien pour vivre, en fait, pour les accompagner dans la vie. Et certains ont des productions tellement incroyables et magnifiques et totales et totalement engagées que des artistes, des personnes liées à la culture, les ont remarquées et ont proposé de les collecter, de les rassembler pour les mettre dans des musées. Et à Paris, il y a donc ce petit musée qui s'appelle le musée de la Halle Saint-Pierre, qui est dans une halle métallique, une très belle halle à côté du marché au tissu, le marché Saint-Pierre, notamment le marché Rennes, etc. C'est dans le quartier de Barbès, c'est au pied de la butte Montmartre. C'est un lieu où il y a énormément de passages. Et ce musée accueille donc, sans avoir de collection permanente, des expositions d'art brut. Le musée est dirigé par Martine Luzardi. Et il accueille des collections d'art brut, d'art singulier, d'art...
outsider.
Voilà, outsider, d'art asilaire aussi. On parle de ce genre d'art. Je ne sais pas si la dénomination est encore utilisée.
Ouais. Alors, on va les préciser pour les auditrices et les auditeurs. L'art brut, donc vous nous avez dit, hein, c'est des personnes effectivement qui ne se revendiquent pas à auteur, mais qui ont besoin effectivement de la création pour les accompagner de leur vie. L'art singulier, c'est quoi ce qu'on appelle l'art singulier ?
C'est par exemple les artistes qu'on n'arrive pas à classer dans une école. Vous savez que de l'art est quand même comme beaucoup de choses, comme la littérature, comme... Le cinéma, c'est quelque chose qui est extrêmement normé. Et donc, quand un artiste s'exprime, on va dire « Ah, lui, cet artiste, il fait partie de tel courant, il est dans telle école et dans tel genre artistique. » Et les artistes proposent des œuvres, on n'arrive pas trop à les classer, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et souvent, c'est reconnu, ce n'est pas reconnu par toujours par l'art officiel. Ce qu'on appelle l'art officiel, c'est juste l'art qui rentre dans le marché de l'art, ouais. Tout simplement. Hein. Il n'y a pas une personne qui dit oh, ça c'est officiel, ça c'est pas officiel. Non, c'est ça. Et donc, voilà, ce sont les productions de personnes voilà, qui n'arrivent pas à se mettre dans un genre, qui ont plusieurs cordes à leur arc, plusieurs casquettes, plusieurs, je sais pas. Et bon, enfin voilà. Ça, c'est
et l'art outsider, et alors, donc là on a défini ces trois arts, l'art outsider, alors, comment vous le définissez?
C'est plutôt un terme donc anglophone. C'est l'art, par exemple, vous pourrez mettre dans cette catégorie-là les gens qui font du tatouage. C'est un art à part entière, et c'est plutôt, et comme c'est très développé, ça s'est beaucoup développé dans les pays anglo-saxons, ça a été classé, rangé un petit peu dans ce modèle-là. Et du coup, ça s'expose aussi. Voilà, comme n'importe quel autre art. Ça s'expose d'abord sur la peau, bien sûr, mais les dessins, les œuvres qui sont faites autour par des... Voilà. Et c'est peut-être un peu plus dans ce genre-là, mais c'est aussi des personnes proches de qui pourraient être proches de l'art brut. Les contours sont assez flous quand même. Hein.
D'accord.
Moi, je suis pas du tout un spécialiste de l'art outsider. Hein. Là, j'en parle, je vous invite à aller jeter un œil. Et il y a des œuvres qui sont totalement incroyables. Voilà.
Alors, vous, justement, donc, vous exposez, hein, vous faites une exposition, donc oui. Actuellement, hein, moment où alors, on parle, hein, donc oui. On invite les auditrices et les auditeurs hein, qui nous entendront, qui vont aller sur Paris, donc on le rappelle, hein, à la Halle Saint-Pierre, donc c'est au pied de la butte Montmartre, donc à Paris.
Oui.
Racontez-nous un peu ce qui se passe
de
dans votre... Voilà. Racontez-nous un peu ce qui se passe dans votre exposition, ce que vous y faites, quand est-ce que c'est ouvert, les horaires, si c'est gratuit, oui. Etc. Voilà, présentez-nous alors, un peu tout ça.
Oui, bah c'est ouvert... pardon, je t'ai coupé la parole. Comment dire, c'est ouvert tous les jours, à partir de 11h, jusqu'à 8h, une fois, je crois, jusqu'à 19h. Il y a un café en bas, vous entrez, donc il y a un café. Accessible normalement, et dans le café il y a une très grande galerie à l'intérieur du café, donc les tables sont au milieu des œuvres. Il y a une grande galerie où en accès libre où vous pouvez contempler les œuvres des artistes qui a des choses ici. Et à côté il y a la librairie qui est une librairie spécialisée d'abord sur l'art brut, sur l'art singulier, donc vous trouvez des choses qu'on trouve vraiment très rarement ailleurs. Et ensuite vous avez la partie musée dans laquelle actuellement il y a une exposition consacrée à l'art brut d'Iran, qui
d'accord.
Est magnifique, qui est sublime celle-là, donc il faut acheter un billet pour pouvoir y accéder. Un artiste incroyable qui fabrique des machines, des automates, qui s'appelle Gilbert Peyre, P-E-Y-R-E, et qui est là pour encore 2-3 mois d'exposition.
D'accord, je vois que Diego Arrabal est en train de regarder sur son ordinateur pour ouais. Pouvoir effectivement... je ouais, suppose, Diego, qu'on peut aller sur un... que vous êtes sur un site.
Je suis sur un site qui reprend...
Le site de la Halle Saint-Pierre. Ouais.
Non, pas celui de la Halle Saint-Pierre, là je suis sur un site qui reprend la discussion, ou du moins la définition de l'art outsider.
Ouais.
Mais après
oui.
Je vais aller ouais. Sur la Halle Saint-Pierre pour regarder.
D'accord, ok. Ouais. Donc voilà, donc on rappelle... Hein,
je suis silencieux, mais je travaille en
ouais,
même temps.
Oui, mais il travaille en même temps, c'est notre... il n'a pas l'air d'égout, mais c'est vraiment là-dessus, il nous trouve les éléments qui par moment nous manquent. On rappelle pour les personnes qui prendraient l'émission donc, en cours de route, hein, qu'on est avec... Daniel Bezas, on était avec lui déjà la semaine passée pour parler de sa maison d'édition, donc les éditions Carnet Livre qui fête cette année donc son 20e anniversaire. Alors maison d'édition très particulière, on invite les auditrices et les auditeurs à écouter le podcast donc, de l'émission donc, de la semaine dernière. Et cette semaine avec lui, on est avec lui à nouveau pour parler de l'exposition, parce que c'est aussi un artiste qui expose effectivement des œuvres. À la Halle Saint-Pierre à Paris, au pied de la butte Montmartre, dans un musée consacré à l'art naïf, l'art brut, l'art singulier, l'art outsider. On vous invite à réécouter le début de l'émission si vous ne l'avez pas entendu pour voir ces définitions-là, ou sinon de faire comme Diego Arrabal, là, qui en ce moment est en train d'aller consulter ces différentes définitions. Qu'est-ce que vous présentez comme tableau, vous, à l'intérieur, Daniel Bezas, vous particulièrement?
Alors c'est une exposition un peu particulière. Enfin, cette année, j'en ai fait deux chez eux. J'ai d'abord, il y a quelques mois, il faut que j'en parle, c'est pour ça, j'ai exposé une peinture à l'huile qui fait 2,20 m sur 32 mètres de long en 23 panneaux. C'est un manuscrit géant, que tout entièrement peint à l'huile, de conception narrative, on va dire, et qui raconte la vie, ça s'appelle Après les guerres, et ça raconte la vie de personnes qui ont survécu à des guerres. et ça, c'est ce que j'ai montré pendant un mois cette année à la Saint-Pierre. Et là, ils m'ont proposé d'exposer, en fait, les artistes de carnet-livre, et moi aussi un petit peu, bien sûr, sur les murs de la Halle Saint-Pierre. Et donc, j'ai invité 10 artistes, parmi lesquels deux que je n'ai pas publiés, deux artistes que je n'ai pas publiés. Et comment dire, et donc j'ai installé sur les murs, dans le café, donc en accès libre, 10 lutrins au mur, sur lesquels j'ai fixé les ouvrages des artistes. Et au-dessus des ouvrages des artistes, je leur ai demandé d'accrocher quelques œuvres sur 2 mètres de large. Et donc, il y a 82 œuvres qui sont exposées sur les murs. Et on a appelé cette exposition « Carnet libre quand les artistes sortent des livres ». Voilà.
D'accord, carnet libre quand les artistes sortent des livres. Alors, j'ai vu hier soir une vidéo qui présente effectivement, pour préparer cette émission, je l'ai regardée. C'est une vidéo YouTube sur l'exposition dont vous venez de nous parler, donc les hommes après la guerre. Alors, elle est très émouvante.
Ouais,
on voit notamment un homme qui a des cicatrices, on voit un homme qui laboure, un agriculteur.
Oui,
on pense que c'est un agriculteur qui laboure.
Ouais, c'est un agriculteur.
Et j'ai le sentiment, quand je le voyais, qu'il lui manquait un bras.
Qu'il lui manquait un bras,
donc en fait, qu'il était obligé de tenir. Alors, quand il laboure, on précise, hein, il n'est pas dans son tracteur. Il a donc un cheval qui est devant, avec une petite houe donc derrière, et il tient la houe donc d'un bras, et on comprend bien la difficulté que ça peut représenter pour lui. Mais d'un autre côté, on mesure bien dans votre tableau ce retour à la vie, qui est essentiel. Et alors, j'imagine que dans le contexte actuel, qui est le nôtre, avec la guerre qui est revenue en Europe, c'est une exposition qui n'est pas neutre, je suppose, Daniel Bezaf.
Non, c'est une exposition que j'essaye de montrer. Ce sont des tableaux, c'est les seuls tableaux que je ne vends absolument pas. C'est une fresque que je ne pourrais pas refaire. Je l'ai faite il y a 20 ans, dans un état semi-second, on va dire. J'ai peint cette fresque de 32 mètres de long dans un appartement qui faisait 10 mètres carrés, à peu près, sixième étage sous les toits, hein, comme un classique de Paris. Et comment dire, l'objet, c'est sorti comme ça. D'ailleurs, c'est un de mes premiers tableaux. Je ne peignais pas vraiment avant. Et c'est sorti comme ça. Et l'objectif, c'était de montrer la vie en traversant le monde. Et donc, je suis parti d'un endroit. Et j'ai traversé la campagne, j'ai traversé une ville. Et je suis arrivé au milieu de l'océan et en vue des côtes d'un autre continent. Je me suis arrêté parce que j'étais épuisé. Donc, voilà. Et tous les personnages des tableaux, qui est une conception, on va dire, assez réaliste quand même si avec ses caractéristiques, tous les personnages des tableaux sont tous blessés, mutilés, réparés. Et ils continuent à vivre.
Donc, ils continuent à vivre, c'est ça qui...
Ils travaillent, ils marchent, ils vont courir, ils font l'amour, voilà, et ils jouent au foot, ils vivent, et comment dire, et tout autour, et tout le tableau est entièrement recouvert d'un récit, donc de texte. C'est-à-dire, j'ai peint le tableau d'abord, une fois que c'était sec, j'ai réécrit par-dessus le tableau un texte dans une couleur blanche, au pinceau et à l'huile encore, et donc ce qui fait que le texte est entièrement recouvert le paysage est entièrement recouvert, on le voit très bien le paysage, hein, il n'y a aucun problème, mais il y a ce texte par-dessus qui, comme si deux mondes coexistaient, qu'ils ne se connaissaient pas, l'un un monde du discours et l'autre un monde de la vie réelle, et que, comment dire, les autres finalement, les deux se nourrissent l'un de l'autre, malgré, au-delà des époques et des temps.
J'invite d'ailleurs les auditrices et les auditeurs à découvrir donc cette vidéo où on voit ces tableaux qui durent entre 11 minutes à peu près, qui durent 11 ou 12 minutes.
Oui, c'est Patrice Velu.
Voilà.
Qu'il a réalisé.
Voilà, ouais. C'est Patrice Velut, donc VELUT, qui l'a réalisé. Donc hier soir, j'ai tapé, moi, pour préparer cette émission, Daniel Bezas, donc Carnet Livre, et je suis tombé donc sur cette vidéo très étonnante. Qui présente effectivement cette œuvre hein, oui. qui est actuellement exposée, donc on le rappelle, hein, à la Halle de Saint-Pierre à Paris.
Un petit bout est exposé là, avec les autres artistes.
Avec les autres artistes, voilà, au pied de la butte, voilà. De la butte Montmartre.
Hein, donc dans je cherche toujours des lieux pour exposer cette œuvre.
Voilà. Et alors, c'est la question que j'allais vous poser, effectivement, quand vous dites que vous cherchez des lieux pour exposer cette œuvre, comment on fait, une fois qu'on a fait une œuvre, pour l'exposer, pour trouver une exposition? Vous allez voir les gens dans les halles, vous rencontrez les directrices, comment ça se passe? Parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît
pas.
Non,
en fait, la Halle Saint-Pierre, j'ai eu beaucoup de chance. C'est qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé à fabriquer mes livres à la main et que j'avais mes petits paquets de livres sous le bras pour démarcher des libraires, je suis tombé sur deux libraires exceptionnels à la Halle Saint-Pierre qui s'appellent Pascal Ecker et Laurence Mendelbaum, pardon, qui ont fondé la librairie spécialisés sur l'art brut de la Halle Saint-Pierre. Ils sont maintenant à la retraite. Et donc, c'est grâce à eux que j'ai pu rentrer dans ce lieu assez extraordinaire. Et donc, petit à petit, avec le temps, au début, ils ont vendu mes livres. Ils ont très, très bien vendu mes livres. Ils les ont bien défendus. Et ils vont le faire, d'ailleurs. Et ensuite, ils se sont aperçus que je faisais aussi, que j'avais fait ces tableaux. Donc du coup, ça les a beaucoup intrigués. Et au bout d'un moment, on m'a carrément proposé de les exposer là-bas, en partie. Donc j'ai pu exposer ces tableaux 3 fois en 20 ans chez eux. Jamais dans l'intégralité, parce que les tableaux, c'est trop grand. Et même si la Halle Saint-Pierre, c'est grand, il n'y a pas 32 mètres linéaires pour exposer l'ensemble des tableaux.
On est d'accord, oui.
Mais j'ai pu en mettre une vingtaine de mètres. Ouais. Voilà.
Ça vous prend combien de temps pour faire ça, pour faire une œuvre comme ça, qui fait une vingtaine de mètres linéaires?
En fait, j'ai mis 2 ans. 2 ans complètement, tout en travaillant comme surveillant dans un collège à côté. Et j'ai peint pendant 2 ans et... Et comme je vivais dans une petite chambre de 10 mètres carrés, je faisais les tableaux. Il me fallait un mois pour faire un tableau, à peu près, un peu plus. Une fois que le tableau était à peu près sec, je le décalais sur un autre mur. Et finalement, au bout de 2 ans, j'avais perdu 3 mètres carrés dans ma chambre.
Oui, d'accord, oui.
Voilà. Et j'avais très mal à la tête parce que j'utilisais de la térébenthine à l'époque et... Même en hiver, je devais vivre la fenêtre ouverte.
Après. Et parce que c'est mon métier, ça. L'essence de térébenthine, c'est un produit qui est classé nocif par inhalation. Ouais. Ça veut dire que ça empoisonne, quoi. Ça veut dire que voilà, on s'empoisonne effectivement avec ça, même si l'essence de térébenthine est tirée de la sève des pins.
Donc, c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux.
C'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux comme les amanites phalloïdes, c'est ce que je dis souvent.
Exactement. Hein. Vous savez qu'une amanite phalloïde est suffisante pour nourrir un homme jusqu'à la fin de sa vie.
Oui. C'est très bien vu, ouais, tout à fait.
Mais comme j'ai pas appris la peinture, je suis un autodidacte comme beaucoup de personnes. Hein. Du coup, je ne savais pas qu'il y avait la possibilité d'utiliser autre chose. Et j'avais prévenu que la térébenthine faisait des dégâts. Ça m'a aidé aussi à voir le monde autrement.
Oui. c'est vrai que la térébenthine, ça sent bon, mais c'est pas parce que ça sent bon que c'est pas mauvais. Voilà, c'est tout le problème effectivement des produits qu'on utilise.
L'essence de lavande maintenant.
Voilà, donc on invite vraiment les auditrices et les auditeurs, hein, Daniel Bezas, à venir voir donc votre exposition, mais aussi celle des autres auteurs, hein, des autres créateurs. Que vous...
Oui, il y a des personnages, je vous assure, il faut venir voir.
Voilà, que vous exposez.
Notamment l'œuvre d'une peintre que je n'ai pas encore publiée, mais le livre est en préparation.
Ah ben vous reviendrez nous voir pour ça. Dès qu'il sera prêt, vous reviendrez nous voir pour ça, pour nous le présenter. Voilà. On compte sur vous. Donc on rappelle cette exposition, Daniel Bezas, hein, que vous faites actuellement, hein, au moment où l'on parle, donc quand les auditrices et les auditeurs vont entendre.
Jusqu'au 19 mai.
Voilà, jusqu'au 19 mai.
Accès libre, venez boire un café, et après entrer dans l'art brut du musée.
Voilà, donc on rappelle, exposition à la Halle Saint-Pierre, donc à Paris. La Halle Saint-Pierre, elle est au pied de la butte Montmartre. Vous voulez avoir l'adresse?
Métro Abbesse ou...
Métro Abbesse voilà. Ou...
Ligne 12.
Ligne 12, voilà, métro Barbès, donc ligne 12 à Paris.
Abbesse,
qu'est-ce que j'ai dit?
Barbès.
Mais c'est à côté.
Vous pouvez prendre le métro Barbès aussi, descendre à Barbès.
Voilà.
Il faut marcher un petit peu, mais bon,
ça fait pas de mal. On rappelle que la Halle, donc Saint-Pierre à Paris, hein, c'est un musée consacré à l'art naïf, l'art brut, l'art singulier, l'art outsider. On vous invite à réentendre le début de cette émission, effectivement, pour voir ces définitions-là. Voilà, et à écouter effectivement ces deux émissions, celle de la semaine passée en podcast sur les éditions Carnet Livre, donc maison d'édition créée il y a 20 ans, toujours par Daniel Bezaz, et puis d'aller voir aussi donc, ce film en tapant sur Internet, une petite vidéo qui dure 11 minutes, hein, qui a été faite par Patrice Velu, voilà, V-E-L-U-T, sur l'œuvre effectivement peinte par Daniel Bezaz. Ça vaut vraiment le coup. Voilà pour cette semaine, Philippe Subercaz, ce qu'on pouvait dire sur Daniel Bezaz, avec qui on aura fait effectivement deux émissions particulièrement riches. Et je vous recommande, Philippe Subercaz, si vous allez à Paris, d'aller voir cette expo. À Le Saint-Pierre, voilà, donc au pied de la butte Montmartre.
Eh bien écoutez, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À bientôt, Daniel.
À bientôt, au revoir.
Merci, à bientôt. Au revoir.